first. There was a memory and the promise of days to come. Then the sound and the fury of hurricanes on the ground. But my home, it's not a place, it's a tone in the haze of the morning sun.
Tandis que je glissais vers le bas-lieu, une figure s'offrit à mes regards qu'un long silence avait tout affaibli. Quand je la vis dans le grand désert, miséréré de moi, lui criai-je, qui que tu sois, ombre ou homme véritable. Il répondit, homme ne suis. Homme plutôt je fus poète, et je chantais le juste fils d'Anchise qui vint de Troie. Es-tu donc ce Virgile et cette source qui répand si grand fleuve de langage? Lui répondis-je avec la honte au front. Le lieu où je m'égare et aide-moi, fameux sage, il me fait trembler le sang et les veines. Il te convient d'aller par un autre chemin, répondit-il quand il me vit en larmes, si tu veux échapper à cet endroit sauvage. Donc, pour ton mieux, je pense et je dispose que tu me suives. Et je serai ton guide. Et je te tirerai d'ici vers le lieu éternel où tu entendras les cris désespérés de ceux qui hurlent à la seconde mort. Je commençais, poète qui me guide, vois bien si ma vertu est assez forte avant de me confier à ce voyage ardu. Je lui parlais ainsi et nous entrâmes dans le chemin dur et sauvage. Le jour s'en allait et l'air obscur délivrait les animaux qui sont sur terre de leur fatigue. Moi seule, je m'apprêtais à soutenir la guerre du long chemin et de la compassion que ma mémoire rapportera sans erreur. Au-dessus d'une porte, je vis écrites ces paroles de couleur sombre. Par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi la gente perdue. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Après avoir mis sa main dans la mienne, avec un air souriant qui me réconforta, mon maître me dit: descendons à présent dans le monde aveugle. Je serai le premier, toi le second. Et il me découvrit les choses secrètes. Là, pleurs, soupirs et hautes plaintes résonnaient dans l'air sans étoiles, ce qui me fit pleurer pour commencer. Diverses langues et horribles jargons, mots de douleur, accents de rage, voix forte, rauque, bruit de main avec elle, faisaient un fracas tournoyant. Mon maître me dit: cet état misérable est celui des méchantes âmes des humains, qui vécurent sans infamie et sans louange. Ils sont mêlés au mauvais cœur des anges, qui ne furent ni rebelles à Dieu ni fidèles, et qui ne furent que pour eux-mêmes. Et moi qui regardais, je vis ces malheureux nus et harcelés sans cesse par des mouches et des guêpes. Elles leur rayaient le visage de sang qui, mêlé de pleurs, tombait à leurs pieds ou le recueillait des vers immondes. La terre en larmes donna un vent d'où surgit une lumière vermeille. Et je tombais comme celui qui succombe au sommeil. Thank you. Lorsque je me relevais, je portais alentour mes yeux reposés pour connaître le lieu où j'étais transportée. Là, à ce que j'entendis, il n'était pas de pleurs, seulement des soupirs qui faisaient trembler l'air éternel. Cela venait de douleurs sans torture subies par ces foules qui étaient grandes d'enfants, de femmes et d'hommes. Mon bon maître me dit « Ces esprits furent sans péché, et s'ils ont des mérites, cela ne suffit pas sans le baptême qui est le seuil de la foi que tu as. Je suis moi-même de cela. » Pour un tel manque, et non pour d'autres crimes, nous sommes perdus. Notre unique peine est que sans espoir, nous vivons en désir. À présent commencent les notes douloureuses à se faire entendre. À présent, je suis venue là où les pleurs me frappent. La tourmente infernale qui n'a pas de repos mène les ombres avec sa rage et les tords et les heurte et les harcèle. Je veux encore que tu saches qu'il y a dans l'eau des gens qui soupirent et font pulluler cette onde jusqu'en haut, comme tes yeux te montrent, ou qu'ils se posent, Ainsi, nous parcourûmes un grand arc dans les marais fangeux, les yeux tournés vers les mangeurs de poux. Corde jamais ne décoche à flèche qui vola rapide à travers les airs, comme je vis venir une petite barque avec un seul marin au gouvernail qui criait « Te voilà donc ici, âme damnée ». Phlégias, Phlégias, tu cries en vain, lui dit mon seigneur, pour cette fois, tu ne nous as que pour passer la boue. Il descendit dans la barque et me fit entrer après lui. Dès que nous fûmes à bord, l'antique proue fendit les flots. Comme nous voguions sur cette eau morte, devant moi se dressa un être plein de fange, disant « Qui es-tu, toi qui t'en viens avant le temps ?» Et moi, à lui, si je viens, je ne reste pas. Mais toi, qui es-tu qui est si enlaidi ? Il répondit, tu le vois ? Un qui pleure. Alors il tendit ses deux mains vers la barque, d'où mon maître avisé le repoussa, lui disant, va-t'en d'ici avec les autres chiens. Et à moi, cet homme fut un orgueilleux. La bonté n'orne pas sa mémoire, aussi son ombre est ici furieuse. Combien se prennent là-haut pour de grands rois qui seront ici comme porcs dans l'ordure, laissant de soi un horrible mépris. Nous le laissâmes ainsi, et je n'en parle plus. Après un long chemin, nous vînmes en un lieu où Phlégias cria très fort « Sortez, voici l'entrée ». Mon maître commença, voici le lieu le plus bas et le plus obscur et le plus loin du ciel qui enclôt toute chose. Et il dit autre chose, mais je ne le sais plus. Car mes yeux m'avaient tout entier entraîné vers trois furies infernales couleur de sang qui tout à coup se dressèrent. Chacune se fendait la poitrine avec les ongles, elle se battait à coups de paume, criant si fort que de frayeur, je me serrai contre mon guide. Retourne-toi et garde les yeux fermés. Car si Gorgone se montre, et si tu la voyais, tu ne pourrais plus t'en revenir là-haut. Ainsi parla mon maître, et sans se fier à mes mains, il me ferma les yeux avec les siennes. Tu vis des rivières de sang et des bouillons de boue. Tu vis Charon, le diable aux yeux de braise. Tu vis Minos, l'examinateur des fautes. Tu te battis avec des diables pleins de rage et obtins le secours d'un envoyé du ciel. Tu grimpas sur la croupe d'un centaure. Tu entendis le démon Plutus, ce maudit loup, qui invoquait Satan de sa voix enrouée. Pape et Satan, Pape et Satan. les assassins, les bandits, les pillards, les agressifs et les déchaînés, les hypocrites, les sorciers, les adulateurs, les faussaires, les voleurs et simoniaques, les ruffians, les tricheurs et autres ordures semblables. Tu vis les violents contre leurs prochains, les violents contre Dieu et ceux qui font violence à la nature. Enfin, dans un bois où nul sentier n'était tracé, tu vis le sort de ceux qui retournent leur violence contre eux-mêmes. Les feuilles de ce bois n'étaient pas vertes mais sombres. Ses branches n'étaient pas droites mais nouées et tordues. Il n'avait pas de fruits mais des épines empoisonnées. Tu entendais partout des lamentations et ne voyais personne qui pût les faire. Aussi tu t'arrêtas, tout est perdu. Tu tendis la main devant toi et cueillis le rameau d'une grande ronce. Son tronc cria « Pourquoi me brises-tu ?» Et quand il fut noir de sang, il se remit à dire « Pourquoi me déchires-tu ? N'as-tu en toi nul esprit de pitié ? Nous fûmes hommes et nous sommes broussailles. Ta main devrait être plus bienveillante, même si nous étions âme de serpent. Quand l'âme cruelle se sépare du corps dont elle s'est elle-même arrachée, Minos l'envoie en cette forêt. Elle y tombe sans choisir sa place, mais au lieu où fortune la jette, là, elle germe comme une graminée. Ainsi, du bois brisé sortait à la fois des mots et du sang. Alice nous déposa au fond, juste au pied de la roche escarpée, et dès qu'elle se fut déchargée de nous, elle disparut comme un dard décoché par un arc. Thank you. Un lieu dit Malbolge, tout fait de pierre couleur de fer, comme le cercle de roche qui l'entoure. C'est en ce lieu descendu de l'échine de la bête que nous nous retrouvâmes. Ici, je vis une pitié nouvelle. Dans le fond, les pêcheurs étaient nus. Des démons cornus avec de grands fouets les battaient cruellement par derrière. S'en vont ainsi ceux qui trompent, me dit mon maître. Allons maintenant voir le sort des séducteurs qui se lamentent et se frappent avec leurs paumes. Nous vîmes là où la roche est en surplomb, et de là dans la fosse, je vis des gens plongés dans une fiente qui semblait tirer des latrines humaines. Plus loin, je vis des gens qui pleuraient en silence. Chacun m'a paru étrangement tordu entre le menton et le haut du buste, car vers les reins, leur face était tournée, et ils devaient marcher à reculons, puisqu'ils étaient privés de la vue vers l'avant. Je pleurais tant, appuyé à la roche d'où tu recueilles, que mon guide me dit « Lève la tête, lève-la, et regarde, les infortunés qui laissèrent aiguiller n'avaient de fuseaux pour se faire voyantes, et qui, parce qu'elles voulurent voir trop loin en avant, regardent en arrière et marchent à reculons. » Plus bas, j'aperçus un effroyable amas de serpents d'espèces si étranges que la mémoire m'en gèle encore le sang. Parmi cet amas repoussant et sinistre couraient des gens nus et pleins d'épouvante, les mains liées derrière le dos par des serpents. Soudain, sur un damné qui était près de nous, un serpent se jeta, qui le transperça à l'endroit où le cou se rattache à l'épaule. En moins de temps qu'on écrit O ou I, il s'alluma et il brûla, puis tomba tout entier en cendres. Et quand il fut à terre ainsi détruit, la poussière se rassembla d'elle-même et recomposa la forme précédente. Je suis placé si bas parce que je fus voleur des beaux ornements de la sacristie et un autre en fut accusé à tort. Il s'enfuit sans dire un mot de plus, et au même instant, trois esprits apparurent que ni moi ni mon guide n'avions aperçus. Comme je tenais les yeux fixés sur eux, voici que s'élance un serpent à six pattes sur le premier et s'attache tout à lui. De ses pattes du milieu, il lui serra le ventre, et de celle de devant, lui saisit les bras, puis il lui planta ses crocs dans les deux joues. Ses pattes de derrière, il les mit sur les cuisses, entre lesquelles il fit passer sa queue qu'il redressa sur les reins. Cette horrible bête entortilla ses membres autour de celui-ci, au point que ni l'un ni l'autre ne semblait plus ce qu'il était. Déjà, les deux têtes n'en formaient plus qu'une, l'image perverse semblait deux et aucune, et s'éloignait ainsi faite à pas lents. Apparut alors, avançant vers les ventres des deux autres esprits, un serpenteau de feu, livide et noir comme un grain de poivre. Il transperça l'un d'eux en cet endroit du corps par où nous prenons la première nourriture, puis tomba étendu devant lui. Le transpercé le regarda, il ne dit rien, mais il bâillait, les pieds fichés en terre comme assaillis de fièvre ou de sommeil. L'un par sa plaie et l'autre par la bouche, il fumait fort, et les fumées se rencontraient, si bien qu'ils furent en mesure d'échanger leur substance. Je vis les bras rentrer dans les aisselles et les deux pieds de l'animal, qui étaient courts, s'allonger, d'autant que les bras raccourcissaient. Tandis que la fumée les teinte tous deux d'une couleur nouvelle, faisant pousser des poils sur la peau de l'un, épilant l'autre, l'un se leva, l'autre tomba à terre, sans jamais détourner leur regard impie sous lequel ils changeaient de figure. Celui qui était debout tira son museau vers les tempes, et de ce qui vint en excès de matière, les oreilles sortirent de ses joues aplaties. Le surplus qui resta par devant forma un nez sur le visage et gonfla les lèvres autant qu'il fallut. Celui qui était au sol ramena son museau vers l'avant et retira ses oreilles dans sa tête, comme fait la limace avec ses cornes. L'âme qui était devenue bête s'enfuit en sifflant par la vallée, et l'autre derrière elle cracha en parlant. Quand nous fûmes au-dessus du dernier cloître de Malbolge, je vis quelque chose que je craindrais de compter seul sans autre preuve, si ce n'était que m'assure ma conscience. Je vis en vérité, et je crois encore le voir, un corps allé sans tête. Il tenait sa tête coupée par les cheveux, suspendue à la main comme une lanterne. Elle nous regardait et disait « Hélas, vois donc la peine épouvantable, toi qui vivant viens visiter les morts. » Nous tournâmes le dos au vallon pitoyable. Il ne faisait là pas plus nuit que jour, si bien que ma vue ne portait pas très loin. Je crus voir plusieurs très hautes tours et mon guide dit: avant que nous soyons plus près, et pour que le fait te soit moins surprenant, sache que ce ne sont pas des tours mais des géants, et qu'ils sont dans le puits, tous plantés là du nombril jusqu'aux pieds. Je voyais déjà la face de l'un d'eux, ses épaules, son buste, une partie du ventre, et les deux bras le long des flancs. Raphaël Mayamesh Zabi Almi se mit à crier l'effroyable bouche à qui ne convient pas un plus doux psaume. Et mon guide me dit, il s'accuse lui-même, c'est Nemrod qui à Babel a fait par sa folle pensée qu'on n'use plus sur terre un langage unique. Laissons-le là, ne parlons pas en vain, car toute langue est pour lui comme la sienne aux autres qui n'est comprise par personne. Alors notre chemin et un trait d'arbalète parut d'un autre géant, plus sauvage et plus grand. Quel fut le maître qui le lia, je ne sais. Mais son bras gauche était serré devant, et l'autre derrière par une chaîne qui le garrottait du cou au pied, en tournant 5 fois sur la partie visible de son corps. Voici Efialt, cet orgueilleux voulut faire l'essai de son pouvoir contre Jupiter souverain, me dit mon guide. Et il en a cette récompense. Mais sache que tu verras tout près d'ici un autre géant, hanté, qui parle et n'est pas enchaîné, et qui nous mettra dans le fond des péchés. Arrivé à Hanté, qui se dressait de 5 aunes hors du puits, sans compter la tête, mon maître lui adressa ces mots. Oh, toi, pose-nous en bas et fais le sang des daims, là où le lac Kossit est serré par le gel. Penche-toi donc, ne tords pas le museau. Ainsi parla mon maître, et l'autre aussitôt, pour le prendre, étendit les mains, et Virgile le prit à son tour dans ses bras. Le géant nous déposa tout doucement dans l'abîme qui dévore Lucifer et Judas, et ne resta pas longtemps penché, mais il se redressa comme un mât de navire. Quand nous fûmes en bas dans le puits obscur, beaucoup plus bas que les pieds du géant, et que je regardais encore vers la falaise, une voix m'arrêta. Va, si tu peux, sans fouler sous tes pieds les têtes de tes frères humains, qui souffrent pour avoir trahi leurs parents. Je me tournai alors et je vis devant moi et sous mes pieds un lac à qui le gel donnait l'aspect du verre et non de l'eau. Livide jusqu'au point où la honte se voit, les ombres d'Hollande étaient dans la glace, claquant des dents comme font les cigognes. Mon maître me dit: voici Lucifer et voici le lieu où il convient de s'armer de courage. Là, l'empereur du règne de douleur sortait à mi-poitrine de la glace, et ma taille est plus proche de celle d'un géant que les géants de celle de ses bras. Oh, quelle stupéfaction ce fut pour moi quand je vis que sa tête avait 3 faces. L'une devant qui était vermeille, et les 2 autres qui se rejoignaient à l'endroit de la crête sur le milieu de chaque épaule. Sous chacune partaient 2 grandes ailes qui n'avaient pas de plumes, et il les agitait de sorte que 3 vents naissaient de lui qui faisaient geler tout le lac. Il pleurait de 6 yeux et sur 3 mentons goûtait les pleurs et la bave sanglante. Dans chaque bouche, il broyait de ses dents un pêcheur, comme un moulin à chanvre, si bien qu'en même temps, il en suppliciait 3. Cette âme là-haut, qui a le pire supplice, dit mon maître, est Judas Iscariote. Sa tête est dans sa gueule, dehors il rue des jambes, des 2 autres qui ont la tête en bas. Celui qui pend du museau noir, c'est Brutus. Et l'autre est Cassius. Mais à présent, il faut partir. Car nous avons tout vu. Il est un lieu là-bas, loin de belles et buttes, qu'on reconnaît non par la vue mais par le son d'un petit ruisseau qui descend par le trou d'un rocher. Mon guide et moi, par ce chemin caché, nous entrâmes pour revenir au monde clair et sans nous soucier de prendre aucun repos. Nous montâmes, lui premier, moi second, si bien qu'enfin, je vis les choses belles que le ciel porte, et par là nous sortîmes, à revoir les étoiles. Thank you.